Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre deux Mers 98.4 FM www.re2m.com. C'est l'heure de Parlons Terroir avec Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour Damien, ça va ?
Ça va bien et toi ?
Bah écoute, c'est le mois de mars, les giboulées de mars.
C'est hein, ça, hein, ils arrivent en avance.
Et les grues passent, enfin, moi je sais pas quand c'est qu'on a vu l'hiver, enfin on n'a rien vu.
Quoi. L'hiver ? Il
ouais,
y a eu de l'hiver.
Ah ouais, il y a eu l'hiver, moi je n'ai pas vu. Bon, aujourd'hui je reçois Amandine Dauphin et Pascal Appareilly qui sont professeurs au conservatoire de Marmande. Nous présenterons la naissance d'un nouvel orchestre qui s'appelle Scherzando à travers une association qui a été créée dont le but est de mettre en place un orchestre à cordes afin de donner de nombreux concerts en Lot-et-Garonne et en Sud-Gironde en toute complémentarité avec les programmes existants. Aussi, ils sont à la recherche de musiciens amateurs pour compléter cet orchestre. Également, je reçois Luc Soulignac qui est président départemental des ADMR, ADMR 33, Gironde, mais aussi il nous présentera donc les caractéristiques des services à la personne, les missions, les services proposés. Et puis on parlera par ailleurs, puisqu'il est également responsable du centre de formation agricole de l'Aréole, il nous présentera ses structures. Alors tout de suite, on commence avec Amandine Dauphin et Pascal Appareilly. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur au Conservatoire de musique de Marmande. Vous êtes quoi ? Qu'est-ce que vous faites comme instrument ?
Alors, je suis professeur de violon, en l'occurrence, au Conservatoire de Marmande.
Et moi, j'enseigne le violon alto au Conservatoire de Marmande.
Bon, quelle est la différence entre un violon et un violon alto ?
C'est la différence, c'est une différence de tessiture où le violon a une tessiture plus aiguë que le violon alto, mais sinon au niveau de la forme et du jeu technique, c'est la même chose. Voilà.
Et alors, faites partie de ce conservatoire et vous avez eu l'idée de créer un orchestre. Alors, comment est venue cette idée ?
Donc ça faisait quelques années qu'on faisait le constat qu'il existait forcément beaucoup de musiciens à cordes, donc jouant violon, alto, violoncelle ou contrebasse, qui avaient reçu une formation souvent classique en conservatoire, et qui, en dehors de la formation au sein de l'école de musique ou de conservatoire, se retrouvaient un petit peu isolés et n'avaient pas forcément de formation dans lesquelles ils pouvaient jouer et partager leur passion avec d'autres musiciens à cordes. Comme le front, par exemple, les musiciens vont à l'Union musicale, par exemple, à Marmande.
Oui, parce que là, on a eu un concert pour le Nouvel An qui était quand même assez extraordinaire. Et à côté de ça, vous avez les symphonistes d'Aquitaine. Eux, c'est plutôt... là, c'est professionnel.
Eux, c'est une formation professionnelle. Les symphonistes dans lesquels nous participons, nous, également. Mais donc, nous avons voulu vraiment créer donc, une formation à l'intention de tous les musiciens amateurs jouant d'un instrument à cordes, de niveau avancé ou pas d'ailleurs. Nous accueillerons tout le monde de façon à produire des concerts de qualité, mais donc avec Amandine, avec nos conseils en tant que spécialistes de nos instruments, nous tenterons de les amener un petit peu plus loin dans leur pratique instrumentale et pour qu'ils se fassent plaisir.
Alors, le nom de l'orchestre, ça s'appelle Orchestre Scherzando. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, Scherzando, c'est un terme italien, donc utilisé en musique, qui veut dire en s'amusant. Et donc, c'est pour un peu montrer l'état d'esprit dans lequel on est, où on est vraiment dans la notion de partage, autant dans les valeurs musicales que nous défendons, en tant que spécialistes, mais aussi pour des valeurs humaines d'échange.
Alors, à Paris, c'est une famille de musiciens, je crois.
Oui, tout à fait, oui, nous sommes musiciens dans la famille.
Et donc, je crois que c'est le neveu, c'est ça, qui a écrit les hommages par rapport aux 800 ans de... 800 ans d'instruction de Marmande.
Voilà, c'est mon neveu. Voilà. Donc, j'ai deux frères, les deux sont musiciens et nous avons tous des enfants musiciens. Voilà.
D'accord, c'est une longue famille, ça me rappelle les maîtres. Ça. Et alors, vous animez déjà des stages, parce que moi j'ai déjà vu que vous organisez des stages au lycée Val-de-Garonne l'été.
Voilà, alors ça c'est un stage que j'organise au lycée Val-de-Garonne depuis 2003, mais donc qui appartient avec une autre association, voilà, qui est différente de l'Orchestre Scherzando, voilà, que nous créons.
Alors justement, par rapport à ça, vous allez produire prochainement vous allez faire une première représentation aussi au Comédia, c'est ça ?
C'est ça. En fait, le conservatoire de Marmande, via Philippe Mestre, nous invite...
Un petit coucou à Philippe,
voilà, d'ailleurs. Voilà, grand merci. Et nous invite à nous produire, à produire en fait un petit extrait du programme qu'on présentera dès l'été prochain, voilà, dans lequel on trouvera du Vivaldi, du Respighi et du Bartok.
Alors justement, on va peut-être écouter déjà un morceau de Vivaldi, le premier. Premier morceau de Vivaldi qui sera donc produit à Comédia à Marmande prochainement. Voilà, donc on a entendu un extrait de Vivaldi, un sol majeur à la rustica. Alors c'est quoi ça?
Alors déjà, le fait que ce soit du Vivaldi, c'était un compositeur qui était, à côté duquel on ne pouvait pas passer en tant qu'ensemble à cordes. C'est un violoniste, un grand violoniste qui a fait beaucoup pour la musique des cordes de l'époque baroque. Voilà, un violoniste italien très connu qu'on a entendu beaucoup dans les ascenseurs, mais qui mérite toujours d'être entendu en salle de concert aussi. Ce concerto en sol qui est dit à la rustica, voilà, comment dire, signifie vraiment, enfin, tout est dans ce terme, quoi. C'est un concerto qui se veut rustique, c'est très péchu et très presque rentre dedans.
D'accord, mais on le sentit, voilà. Déjà, on le sentit tout à fait. Alors donc, ce premier concert que vous allez faire, c'est au Comédia, c'est quand juste?
Le 3 avril à 20h30.
D'accord.
Donc oui, donc je dis que le conservatoire nous a invités parce que c'est un concert qui sera autour des instruments à cordes, autour des ensembles de Marmande, en première partie les plus jeunes et tout petits.
Oui, c'est souvent comme ça.
Voilà, et c'est comment dire, la partie principale de ce concert est consacrée à la production des ensembles, la réunion des ensembles d'Agen, des grands élèves d'Agen et de Marmande que dirige donc Pascal.
D'accord. Alors, je me redresse devant celui qui est le maître d'œuvre, là, à ce niveau-là. Donc, vous recherchez... Alors, vous êtes déjà, votre orchestre à cordes est composé de combien de musiciens?
Alors, actuellement, nous sommes composés de 12 musiciens, donc violon, alto, violoncelle et contrebasse.
Oui.
Et donc, notre orchestre accueillera bien volontiers tout musicien jouant de ces instruments, tout musicien amateur qui ont envie de se perfectionner ou de partager leur passion, tout simplement. Et donc, les portes sont ouvertes et nous n'avons pas de limite pour accueillir les musiciens. Plus nous serons nombreux, et plus les échanges seront vifs.
Parce que là, de ce côté-là, vous avez prévu des répétitions à quel moment, là?
Alors en fait, pour l'instant, donc, sur notre planning, nous sommes partis sur des répétitions le vendredi soir de 20h à 22h. Et donc par la suite, on verra avec les participants à cet orchestre quel est, pour l'année prochaine, le meilleur jour et le meilleur horaire pour satisfaire tout le monde. Voilà.
Parce que là, vous projetez de faire des concerts aussi bien à l'Hôtel-Grande comme à Sud-Gironde à partir de cet été, c'est ça?
Voilà, déjà, je pense que donc, à partir de fin juin, début juillet, nous serons prêts à produire un concert dans son entier avec notre simple formation. Voilà.
D'accord. Alors, sachant qu'ici, il y a quand même des écoles de musique. Hein, je pense à l'Ariole, Sauveterre, Montségur, enfin, bon, il y a quand même Targon...
Oui, il y a beaucoup de structures musicales. Donc actuellement, donc nous démarrons tout juste. Donc nous n'avons pas encore contacté tous ces pôles instrumentaux, je dirais, qui sont importants dans le secteur et avec lesquels, et bien sûr, nous serons contents et heureux de participer à d'éventuels projets d'envergure.
Alors, au niveau conservatoire, je veux revenir un petit peu dans votre activité, votre métier. Vous faites donc, vous enseignez des instruments à cordes. Vous avez combien d'élèves par rapport à... Ça marche par classe, comment ça marche là ?
Oui, en fait, on reçoit les petits à partir de 7 ans, pour nous, hein, oui. Mmh. Et on, jusqu'à... Enfin, il n'y a pas de limite d'âge, hein, en réalité. La seule limite se fixe, on peut pas recevoir tous les enfants et tout le monde, donc la priorité est quand même portée justement sur les enfants. Donc voilà.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis l'année dernière, il a mis en place TEPACAP, hein, au niveau des écoles primaires sur l'ensemble de Marmande, mais c'est en train même de s'étendre sur carrément l'agglo.
Voilà, donc c'est un projet magnifique donc, que Monsieur Mestre a mis en place. Et donc nous allons à la rencontre des enfants dans les écoles primaires pour les accompagner dans un champ qu'ils apprennent sur place et leur faire découvrir les instruments donc, individuellement. Ils ont l'occasion donc déjà de les entendre, de les essayer une première fois dans leur école primaire. Et par la suite, ils viennent dans notre conservatoire pour les essayer un petit peu plus, avec un peu plus d'approfondissement sur 2-3 présentations en cours avec nous et pour éventuellement leur donner l'envie de commencer la musique.
Voilà. L'éveil à la musique, quoi, hein, un éveil musical, sachant que quand même le rectorat applaudit dès demain, etc. Ils ont trouvé ça très extraordinaire.
Voilà, mais c'est important parce que nous touchons des enfants qui parfois n'ont pas idée que ça peut être accessible pour eux et donc on arrive à capter un petit peu des enfants de
tout horizon.
Tout horizon, voilà.
C'est ça, c'est intéressant. Voilà. Ça.
Et c'est très, très enrichissant même pour nous.
Oui, c'est ça, parce que ça permet un échange, etc. Et, et je crois qu'avec, il me semble, avec des handicapés aussi, vous avez travaillé.
Alors, nous avons deux professeurs qui donnent des cours à un public donc handicapé.
Oui, c'est ça. Donc c'est
voilà, qui ont été
aussi
formés pour ça aussi. Ouais. Donc voilà, mais le conservatoire de Marmande est très dynamique et propose beaucoup de choses. On est à autour de 600 élèves, je crois.
600 élèves, oui, voilà. Ça, oui. Tout à fait. Bon, alors donc on va revenir on va finir là-dessus. Que l'orchestre Scherzando, qui va démarrer prochainement donc début avril à Marmande au Comédia. Donc, vous avez recherché ardemment des musiciens de la région, hein, Sud-Gironde notamment. Il y a un numéro de téléphone pour vous contacter par rapport à ça ?
Oui, donc ce sera le 06 75 94 35 86.
Alors, on répète, 06
75 94 35 86.
Oui.
Et l'adresse mail, orchestre Scherzando.
Oula.
Alors, on va appeler donc orchestre, oui. O-R-C-H-E-S-T-R-E.
Oui.
Scherzando, S-C-H-E-R-Z-A-N-D-O. Donc, oui. Tout attaché, sans majuscule, @gmail.com.
Gmail.com.
Voilà, il y a une page Facebook qui est également active.
Oui.
Voilà. Alors, donc c'est orchestre Scherzando, tout simplement.
Ah d'accord, on tape orchestre Scherzando et c'est bon.
Voilà.
On est déjà chez vous. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. On va entendre justement un autre morceau de musique qui sera produit prochainement, donc début avril, au Comédia à Marmande. Merci.
Merci.
Merci à vous. Thank you.
De retour dans Parlons Terroir avec Patrick.
Voilà, on vient d'entendre Vivaldi à la, en do majeur, donc, qui se produira prochainement au Comédia à Marmande, à part l'orchestre, ou bien l'orchestre qui est en train de se monter, qui s'appelle Scherzando. Et ils sont en recherche donc de musiciens amateurs, puisque ce sera à la fois sur Lot-et-Garonne et Sud-Gironde, où ils se produiront à partir de cet été. Alors, pour cette fois, je reçois Luc Soulignac, qui est président départemental de l'ADMR Gironde. Alors, c'est quoi ? Bonjour, Luc.
Bonjour, Patrick.
Et alors, c'est quoi l'ADMR ?
Alors, l'ADMR est une association historique qui promeut, on va dire, l'emploi sur les territoires et le service également aux territoires, au plus près des personnes qui en ont le plus besoin. Et en fait, on raisonne en association. Donc, on est au total sur le département 11 structures qui sont fédérées autour d'une fédération. Donc, forcément, en faisant partie du conseil d'administration, parce qu'étant président de l'association réolaise, je suis devenu donc président de la structure fédérale.
Alors, 11 associations sur l'ensemble du département.
Quasiment l'ensemble du département, en effet. Il y a des territoires où nous ne nous trouvons pas, parce qu'en fait, il y a de la place vraiment pour tout le monde et de l'emploi pour tout le monde. Mais nous sommes en particulier sur le bassin, où nous avons deux structures. Nous avons une structure également à Sauveterre. On est très, très bien implanté sur le sud de Gironde, en effet. Donc voilà, vraiment de la place pour tout le monde et autour de ces différentes structures, on essaie voilà, de fédérer les différentes associations vers des démarches communes que justement la fédération doit impulser.
D'accord, parce que là c'est une structure nationale, une des premières en tout cas qui était en France.
C'est la première en effet à l'Union nationale. J'ai eu la chance de monter à Paris avec notre tout nouveau directeur pour assister à l'Assemblée générale de l'Union nationale. C'est vraiment, vraiment impressionnant. On se rend compte qu'au-dessus de nous, on a une structure extrêmement bienveillante pour ses propres fédérations et également pour les associations qui en découlent. Et on se rend compte que la réactivité est présente lorsqu'on a des besoins en termes de demandes juridiques. Et c'est extrêmement rassurant dans ce monde associatif qui aujourd'hui engage beaucoup de responsabilités lorsqu'on en est en particulier le président.
Alors, l'ADMR, c'est comme une salariée.
Sur l'association d'Aréole, je vais parler de l'association d'Aréole, c'est environ 70 salariés, juste sur le territoire du Réolais, qui couvre environ 350 bénéficiaires. Donc, essayons d'imaginer ça en le multipliant par 11 structures, et puis ça donne un chiffre relativement important, voilà, qui ramène, on va dire, au total à peu près à 320 000 heures d'activité sur l'ensemble du département. Donc, quelque chose d'extrêmement important et au plus près, justement, des personnes qui en ont le plus besoin.
Alors là, on travaille en milieu rural, donc service à la personne en milieu rural. Et quels sont les services qui sont proposés à ce niveau-là ?
C'est exclusivement, je dirais presque, de l'aide à domicile. Voilà, de l'aide à domicile, également avec des personnes qui ont des statuts d'auxiliaire de vie, qui ont des gestes un petit peu plus techniques, donc, et au plus proche éventuellement donc, des prescripteurs qui sont donc les évaluatrices donc, du conseil départemental. Et donc, ce sont ces métiers-là aujourd'hui qui sont mis en avant. Après, derrière, il est clair qu'il y a des niches à un moment donné qui peuvent être utilisées parce qu'il n'est pas neutre de savoir qu'une personne âgée peut à un moment donné avoir un petit besoin d'un petit bricolage, peut avoir besoin d'un petit coup, on va dire, de râteau dans son jardin. Il est clair qu'il y a peut-être des niches à exploiter, en effet, que nous n'exploitons pas totalement encore aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est plutôt l'aide à la personne au niveau de l'entretien à la maison et puis l'entretien à la personne.
En ce qui concerne la Gironde, oui. Voilà. En ce qui concerne notre fédération au niveau de la Gironde, oui. Ensuite, on a en revanche des projets de développement qui peuvent toucher à la petite enfance, en particulier. Et ça, ce sont éventuellement là aussi des créneaux qui pourraient être utilisés.
Alors, ça veut dire que avec le personnel que vous avez, des plannings quand même, on doit s'arracher les cheveux des fois, parce que...
C'est un autre métier, en effet. Donc, en fait, c'est vrai que la fédération regroupe 22 salariés au total. Donc, la fédération est l'employeur de 22 salariés qui sont des coordinatrices en puissance de ces différentes associations. Et en fait, les associations, ensuite, on compose réellement une association où c'est qu'il y a une structure, voilà, très, très bien hiérarchisée, avec un président, avec un trésorier, etc., qui ont toute leur autonomie, mais qui, en fait, adhère à une fédération. Et voilà, cet ensemble-là doit donner une cohérence. On doit trouver une cohérence aujourd'hui fédéralement, une chose qu'on essaie d'installer avec notre directeur aujourd'hui.
Et alors, ça veut dire que là, une personne, quand elle le fait, elle va de personne âgée à personne âgée ou autre, puisqu'on peut employer quelqu'un à domicile pour faire le ménage ou autre chose. Ça nécessite des plannings relativement importants, une connaissance déjà mutuelle entre la personne âgée, et ça c'est, je parle par en connaissance de cause, parce que je travaille avec la DMR, donc je connais très bien depuis très longtemps la DMR, plus de 20 ans, 30 ans. Ça nécessite quand même un esprit de confiance, etc., entre les personnes, entre l'aidant et le... Et la personne qui est aidée, quoi.
Exactement. Et c'est vrai que là, souvent, les salariés de la fédération donc sont vraiment un petit peu, des fois, entre le marteau et l'enclume. Hein, c'est-à-dire entre les besoins de la salariée qui va intervenir et le besoin du bénéficiaire. Et en fait, dans la programmation, en effet, dans la planification, on peut se retrouver des fois avec quelques difficultés ou quelques temps d'avance ou quelques créneaux de retard. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait s'imaginer le besoin de la personne qui attend impatiemment justement cette visite-là pour aussi, non pas seulement et uniquement, et c'est ça l'intérêt de l'aide à domicile, faire une tâche nécessaire et utile, mais aussi apporter de la bienveillance, être les yeux et les oreilles d'un territoire. Et c'est ça que moi j'ai envie de promouvoir au niveau de l'aide à domicile dans son ensemble. C'est cette idée de se dire que nous avons la chance d'avoir des personnes qui aiment leur travail, qui ne sont pas à l'usine d'ailleurs, qui vont rencontrer vraiment l'humain et qui au travers de ça sont en capacité de ramener des besoins complémentaires, peut-être parce que justement des bénéficiaires en auraient besoin.
Alors ça, c'est des sites, il y a des formations qui sont mises en place à ce niveau-là, au niveau des personnels encadrants.
Alors, pour les intervenants, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve aujourd'hui, et ça c'est important, Patrick, que vous en parliez, on se retrouve vraiment quand même aussi avec un problème de recrutement. Il faut le savoir, il faut en parler. L'aide à domicile aujourd'hui, peut très vite être une structure fragilisante pour éventuellement une salariée, parce que le personnel est quand même assez sollicité physiquement, et il n'est pas neutre de voir sur des structures associatives, malheureusement, des ruptures pour inaptitude ou des bricoles comme ça qui peuvent tomber. Et après, derrière, forcément, ça libère de la place et forcément du besoin pour, et on n'est pas tout le temps en capacité, malheureusement. Donc, on charge les personnes que nous avons déjà. Et alors, c'est vrai que nous, fédéralement, on est quand même très bien structurés avec des logiciels qui nous permettent de gérer ce qu'on appelle de la modulation. Donc, on ne charge pas trop, justement, nos personnels en essayant de les économiser au maximum. Mais il est clair que c'est un métier aujourd'hui qui n'est pas valorisé. Il faut le dire. Donc, il y a un gros travail, un gros chantier mené aujourd'hui qui doit être entendu de tous, qui doit vite redescendre d'ailleurs, parce qu'il doit être validé, je crois, cet été, il faut impérativement que ces métiers soient valorisés et encouragés.
Si on veut maintenir les personnes âgées à domicile, il faut obligatoirement un accompagnement à ce niveau-là. Et donc, ça fait partie des pièces angulaires, en plus des infirmières, etc., kinés qui interviennent. Mais ça, je crois que c'est quand même la pièce maîtresse, là.
C'est la pièce maîtresse, en effet. On pourrait penser que c'est un petit peu un carrefour de tout ça. Voilà, ce sont des yeux et des oreilles, encore une fois. C'est personnel de l'aide à domicile et qui revendique. En plus, ça c'est intéressant, là, parce que tout dernièrement, là, on est en plein dans les entretiens professionnels individuels. Donc, on gère vraiment ça comme une petite entreprise, surtout sur l'association de l'Ariol. Mais on entend ça souvent, les salariés qui disent « on n'est pas des femmes de ménage ». Non, vous n'êtes pas des femmes de ménage. Vous êtes des aides pour ces personnes, et vous devez leur apporter surtout un soutien
moral. Tout à fait. Ce n'est pas des femmes de ménage, c'est des aides à domicile.
C'est ça.
Et on est bien dans cette démarche-là, d'autant plus que il y a l'accompagnement des fois pour aller faire des courses, il peut y avoir
aussi,
tout un tas de choses.
Bien sûr, merci de le préciser, mais ça ne s'arrête pas exclusivement en effet à ces tâches.
Ces tâches, oui, tout à fait. Donc, et puis il y a surtout un lien important qui se crée, sachant que souvent ces personnes âgées sont souvent seules, et donc... c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur qui leur apporte finalement un rayon de soleil dans la maison, quoi.
C'est exactement ça. Il est clair qu'on a la chance d'avoir des aides à domicile aujourd'hui complètement investies et qui font, dans le cadre en particulier de ces entretiens professionnels individuels, qui me retraduisent cela. D'où ma présence, parce que je ne suis que bénévole là-dedans, faut le savoir, et être bénévole d'une entreprise aussi énorme, quand même, ça demande beaucoup de responsabilités. Et si je le fais, c'est vraiment parce que j'ai cette conviction que ce métier doit être valorisé et qu'il est aussi un emploi pour tout le monde.
Très bien. Bon, on a fait à peu près le tour. On va passer avec une pause musicale. Damien à la technique.
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais,
que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils. Que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et on élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
Graham Wright, qu'as-tu appris à l'école?
Eh oui, malheureusement, Graham Wright nous a quittés la semaine dernière à 94 ans. Enfin bon, il sortait encore il y a 3 ans, il était encore en concert. Enfin bon, extraordinaire. Donc, on revient cette fois, c'est une école aussi, c'est un centre de formation agricole de l'Aréole. C'est Luc Lossignac, responsable de ce centre, qui va nous en parler. Alors, le CFA, on forme quoi là-dedans?
On forme des agriculteurs, monsieur Cousineau. On forme des agriculteurs, on forme des agriculteurs, on forme des ouvriers qualifiés, des ouvriers donc de voilà qui exécutent des tâches donc sous la responsabilité haute, on va dire, d'un responsable d'entreprise. Et ensuite, nous formons aussi des responsables d'entreprise qui eux se destinent à l'installation. Voilà donc les deux niveaux vraiment que nous proposons à l'Aréole.
Alors avec plusieurs secteurs.
Avec plusieurs secteurs, en effet, donc on a les métiers de l'agriculture, donc qui sont ramenés avec un ensemble, donc une addition de pratiques qui touchent à la vigne, évidemment, qui touchent aux grandes cultures, aux cultures de plein champ, et également donc à l'élevage dans son ensemble, que ce soit élevage en production de laitière ou en production de viande, etc.
D'accord. Voilà. Et à ce niveau-là, vous avez au niveau des... Donc vous préparez des CAP.
On prépare les CAP, ce sont des jeunes qui sont en contrat d'apprentissage sur 2 ans.
C'est
ça,
voilà. C'est un apprentissage.
C'est un apprentissage, en effet. Ce sont des jeunes qui sont éligibles à cette formation-là dès qu'ils sortent de 3e à l'âge de 15 ans et qui peuvent signer un contrat de 2 ans chez un employeur, rémunéré évidemment, avec donc 12 semaines de cours par an qui sont préposés en centre de formation. Et le reste du temps, ils sont en entreprise, mais avec une vraie considération de salarié, avec les fameuses 5 semaines de congé, etc. Et toute l'organisation qui va avec, touchant au règlement intérieur de la structure.
On parle beaucoup d'apprentissage, parce que là, c'est l'apprentissage, on est vraiment au cœur de l'entreprise. Là.
On est vraiment au cœur de l'entreprise, on est vraiment dans le contexte de l'entreprise. C'est-à-dire que même d'une entreprise à une autre, les apprentissages ne sont pas tout le temps les mêmes. Mais voilà, c'est l'intérêt du centre de formation de réguler un petit peu, voilà, de ramener, d'homogénéiser au travers d'un référentiel professionnel qui a été écrit par le ministère de l'Agriculture et qui donne après certification.
Alors donc là, on se destine à la fois à des postes de salariés, mais également responsables d'exploitation, donc liés à l'installation. Vous faites à la fois des formations en apprentissage, mais également formation en adulte.
C'est tout à fait ça. On a la chance d'avoir des financements obtenus par le conseil régional. Dans le cadre d'appels d'offres, voilà, et on appelle ça le plan régional de formation, pour lequel des candidats inscrits à Pôle emploi peuvent tout à fait faire valoir le droit à obtenir une capacité professionnelle pour s'installer dans le domaine agricole. Et là, on trouve des projets qui partent de l'installation en élevage de volailles, en passant par le maraîchage, l'arboriculture, la vigne, évidemment, parce qu'on trouve souvent aussi des fils d'agriculteurs qui, en reconversion professionnelle, reviennent à ces métiers-là après des parcours extraordinaires. Hein, et il est important de dire que dans ces formations, on retrouve des niveaux de diplôme absolument inimaginables, comme des avocats, des experts comptables, des ingénieurs en aéronautique. Donc, je vous laisse imaginer, Patrick, le groupe, comme il est vivant et dynamique lorsqu'on a ce type de profil.
Tout à fait. Alors donc, ça veut dire que c'est des personnes qui sont à un certain âge, hein, c'est-à-dire à peu près 30-35 ans.
Tout à fait. Oui, ouais, c'est ça.
Donc, il y a eu un parcours assez important déjà, mais qui ont déjà réfléchi par rapport à, finalement, on parle d'agribashing en ce moment, eux, ben, ils sont à l'encontre de ça. D'ailleurs, on va entendre tout à l'heure des jeunes qui parlent de leur métier, d'agriculteur.
Des jeunes du CFA.
Du CFA. On aurait pu entendre aussi des adultes. Hein. Ils seraient même encore plus convaincus, puisqu'ils sortent d'ailleurs. Et donc, ils sont vraiment à l'encontre. Eux, c'est des gens qui sont déjà destinés à s'installer rapidement.
C'est exactement ça. Ils ont déjà un projet bien préconstruit. Ils sont déjà passés dans les radars de la Chambre d'agriculture, voilà, de ce qu'on appelle du point accueil-installation. Mmh. Et donc, ils ont tout le cheminement, on va dire, de tracé. C'est vrai que la formation est un sas, en fait. On les prépare vraiment à trouver un réseau, à se faire connaître aussi. C'est ça le but et le sens que l'on donne à la formation. Et après, éventuellement, éditer tous les documents qui seraient nécessaires pour éventuellement leur favoriser l'installation.
Alors, la formation par elle-même, elle se fait sur combien de temps là ?
Alors, pour la formation adulte, on est sur un temps de 1197 heures, donc sur, on va dire, une formation qui fait à peu près 8 mois au total, mais avec une alternance, avec évidemment des temps d'entreprise et une structuration autour de blocs de compétences bien définis, voilà, où c'est qu'on peut tout à fait, à un moment donné, accueillir une personne extérieure sur uniquement un bloc de compétences qui peut toucher, par exemple, au métier ou à la compta-gestion, par exemple, parce que le pilotage, ça reste pour une structure agricole absolument indispensable aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, les jeunes en parlent, on va en écouter tout à l'heure, mais de ce côté-là, ce qui est important, c'est que finalement, le projet s'affine au cours du temps, quoi.
C'est l'intérêt de la formation. On commence au début par des formes de diagnostic, voilà, pour après éventuellement aller davantage dans le métier et dans tout les problématiques que peuvent rencontrer le métier en lui-même, hein, en termes de gestes pratiques, de problématiques et de régulations. Et ensuite, on va tranquillement, on va dire, vers la partie pilotage. On fait la somme, on va dire, du diagnostic et de la maîtrise technique pour les amener à comprendre les chiffres, les indicateurs technico-économiques, et ensuite à raisonner, on va dire, un plan d'investissement logique qu'ils pourront présenter dans le cadre de leur parcours.
Alors, ça veut dire que ces personnes-là, au bout de 8-10 mois, ils passent après, soit dans le cadre d'une démarche d'un projet d'installation, aider ou non aider.
C'est tout à fait ça. Donc, ils peuvent éventuellement solliciter une aide, donc avoir ce qu'on appelle les dotations aux jeunes agriculteurs. Les critères sont liés à l'âge, évidemment.
Moins de 40 ans.
Voilà. Mais dans la formation, nous avons des personnes de 50 ans, voilà, qui ont des projets en plantes aromatiques et médicinales. J'ai oublié de préciser cette spécificité-là. Oui. Mais des personnes, voilà, qui veulent revenir à la terre, qui veulent, voilà, qui ont été dans des bureaux toute leur vie, qui ont peut-être, voilà, subi du stress ou voilà, et qui là aussi sont extrêmement moteurs dans le groupe.
Alors, ce qui est important, c'est, on le voit pour tous, hein, tout jeune qui s'installe ou tout celui qui veut s'installer, c'est un problème de foncier.
Ça reste un problème de foncier. Alors, évidemment, pour ceux qui ont des projets en maraîchage, le problème est un petit peu moindre. On peut trouver rapidement une surface minimale d'installation lorsqu'on fait du maraîchage. Mais il est clair qu'aujourd'hui, un orchestre familial qui veut reprendre de la vigne, ouais, il faut vraiment arriver avec des billes quand même assez solides. Donc là, c'est le genre de champ où on retrouve, voilà, des femmes de fils d'agriculteurs. On retrouve, voilà, ce genre de personnes-là. Mais en revanche, voilà, sur les projets en volaille aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des projets en volaille en intégré en particulier, des personnes qui descendent de Paris, qui veulent une parcelle avec des cabanes, etc., et qui peuvent être tout à fait prises en charge par des grandes coopératives, et nous on les accompagne, voilà, dans un projet pareil de formation, identique aux autres, hein, parce que le niveau doit forcément être homogène, et on les amène à bien comprendre ces dispositifs.
La particularité, c'est que la formation, les évaluations se font tout au long de la formation.
C'est tout à fait ça, on n'est pas sur un examen terminal, et d'une, mais en plus...
Mais pour les deux, que ce soit apprentissage ou...
Exactement, parce que ce soit par l'apprentissage ou la formation continue, le diplôme est le même, donc les évaluations sont les mêmes, et on leur propose d'expliciter, donc ça se passe toujours à l'oral, toujours avec des professionnels, il faut le savoir, et alors le plus intéressant, c'est cette dernière évaluation que nous avons, qui est en fin de parcours et qui s'appelle « Bien définir son plan d'investissement », et en fait, les meilleurs professionnels pour venir à suivre ça, ce sont les banquiers. Mmh. Donc on trouve un contexte assez intéressant, on les voit un petit peu en mode stress, mais on leur dit que c'est pour leur bien aussi, et c'est pas inintéressant de voir les personnes attendre justement pour passer l'évaluation.
On va peut-être écouter justement un reportage qui a eu lieu dernièrement au CFA d'Arriol.
L'agriculture, c'est une passion. C'est, tout le monde dit c'est compliqué comme métier, tout, ça paye pas assez, mais quand on a la passion, on peut tout faire.
Le comportement du grand public vis-à-vis du monde agricole aujourd'hui, il est assez logique. Quand on s'attarde sur les comportements et les méthodes culturales, c'est quelque chose qui peut faire peur. Tout est mécanisé, on fait énormément appel à la chimie ou à des procédés artificiels. Ça appartient à un ancien monde. Il y a eu énormément de changements.
Je me positionne au niveau du bio quand même, parce qu'un jour ou l'autre, ça nous retombera dessus. Il faut essayer le moins possible de détruire la planète. C'est compliqué pour avoir le label bio, mais bon, c'est pas impossible.
C'est plus difficile, mais en contrepartie, on voit un peu plus cher nos produits. Dans ma classe, par exemple, il y en a trois quarts qui comprennent la démarche et qui sont sensibles. Mais par contre, il y a un certain pourcentage qui sont encore assez bornés et pensent un peu comme la vieille génération.
Je ne ferai pas de bio. En raisonner, d'accord ? Pas en bio. En bio, il y a trop de normes. Pour moi, pour passer au bio, il faut être tout seul. Il faut pas avoir de voisins proches ou un truc comme ça. Si dans 10 ans, le conventionnel, ça vaut plus rien, bon, ben là, il faudra envisager passer en bio. Mon principe à moi, c'est plus t'as grand, plus tu gagnes.
Je m'inscris pas dans cette démarche hyper productiviste, mais plus dans une démarche vivrière, lente, naturelle, pour tourner au manuel, au bio, quoi, sans les produits chimiques, à viser plus une qualité qu'une quantité, de recréer un lien entre le producteur, le consommateur, toucher des gens de ma génération, les futurs consommateurs de demain. Et je pense notamment aussi à l'éducation, la sensibilisation des plus jeunes.
D'inquiétude pour ce métier-là parce qu'il y a de plus en plus de difficultés à devenir agriculteur maintenant. Parce que tous les prix augmentent sauf nos produits qu'on vend nous. Nous, au contraire, il faut que les produits nous qu'on vend ils baissent. À un moment donné, ben, on n'y arrive plus à vivre quoi, avec ce métier-là.
On a fait beaucoup d'heures, on vit pour travailler plutôt que de travailler pour vivre. C'est un peu inquiétant parce que du coup, ça attire encore moins de monde parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui veut faire ces métiers-là. C'est vrai que ce sont des métiers durs mais qui sont passionnants. C'est dommage que les gens s'arrêtent au fait que ce soit dur. C'est surtout un problème pour les agriculteurs de gestion, parce que maintenant, il ne faut pas être juste agriculteur, il faut être chef d'entreprise. Et les agriculteurs ont souvent ce problème, ils ont beaucoup de fierté. Quand ils sont en difficulté, j'ai l'impression ne vont pas demander de l'aide.
Personnellement, je ne me vois pas faire autre chose. Je ne pourrais pas être coincé derrière un bureau. Tout le monde dit c'est compliqué comme métier, tout, ça ne paye pas assez. Mais quand on a la passion, on peut tout faire.
Je suis entouré par la nature, ouais, je me sens bien, naturel, détendu, étant toujours attiré par l'environnement, la vie de manière générale, les animaux. Moi, j'ai envie de construire ma vie comme ça en fait.
Moi, je sais que j'aime bien aller travailler dans les rangs de vigne avec mes collègues parce que même si c'est un travail à la chaîne, tu parles, tu rigoles, c'est agréable quoi.
Ce qui m'a donné envie de rentrer dans le monde agricole, c'est surtout le contact avec la nature déjà. Ça aide les gens quoi, l'agriculture. Sans agricole, il n'y a plus de monde quoi, s'il n'y a plus d'agriculteurs. Il n'y a plus de vie sur Terre s'il n'y a plus d'agriculteurs. Parce que tout est produit par l'agriculture quand même. La viande, le lait, tout c'est les agriculteurs qui le font. Le métier d'agriculteur, ce n'est pas le métier le plus dur au monde quoi. Au contraire, c'est le métier le plus joli moi je trouve. On donne des naissances, c'est mignon quoi. Il y a toujours un lien avec la Terre quoi.
Voilà, regardons les pieds sur terre, on est bien dedans. Donc, au CFA, on voit qu'il y a une diversité, finalement, d'idées par rapport à sa conception de s'installer en agriculture.
Différents modèles agricoles, on les a bien reconnus, là. Les modèles agricoles de celui qui veut des gros tracteurs et de celui qui veut juste sa petite butte avec, c'est quelques légumes, hein, voilà. Mais c'est aujourd'hui aussi l'intérêt de la formation, ne surtout pas opposer les modèles.
Non.
C'est aujourd'hui l'intérêt de la formation, il est là. On prône et on parle d'agroécologie, évidemment.
L'agriculture de conservation.
L'agriculture de conservation. Mais derrière, ce qu'il y a d'extrêmement important à comprendre, c'est nous, en tant que formateurs, le message qu'on doit faire passer, hein, qui d'ailleurs, on va dire, préconisé par le ministère et les référentiels, c'est de justement ne pas opposer les modèles, clairement, et de mettre en avant l'agroécologie.
Tout à fait. Alors, de ce côté-là, vous mettez en avant des actions au niveau du CFA.
Oui.
Alors, ça commence tôt, déjà.
Ça commence tôt, en général, dans leur parcours. En effet, on n'oppose pas les modèles. Ça a le mérite d'être clair. Mais comme je disais, la première chose sur laquelle je les mobilise, c'est le sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand.
Oui.
Voilà, donc on va traiter...
Même qu'on ne soit pas éleveur, on va les voir.
Même qu'on ne soit pas éleveur, on y va. Mais en fait, c'est dans l'intérêt d'un module de formation. Et en fait, on a une intention pédagogique derrière cette visite. Là, c'est-à-dire qu'on voit ça dans des dimensions voilà, où on voit vraiment la Formule 1 de l'élevage. Et excusez-moi, Patrick, d'employer ce terme-là, mais ce n'est pas tellement de l'agroécologie, ce sujet-là, mais la génétique est importante aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Une fois qu'on a visité ça, l'intérêt, il est qu'en fin de parcours, justement, je puisse proposer aux jeunes d'organiser eux-mêmes leur propre mini-ferme sur le centre de formation et d'accueillir donc pendant 2 jours les écoles du territoire. Et il est clair que le message passe et qu'on voit qu'on a en effet nos jeunes qui sont, même s'ils sont du monde rural, en fait connaissent très mal le monde agricole aujourd'hui. Et je crois que c'est un des premiers combats que l'on doit avoir, c'est-à-dire avoir cette capacité à accueillir du public à la ferme, de communiquer sur son métier le plus correctement possible, en évitant évidemment de tendre vers... De tendre la main vers l'agribashing, quoi.
Oui, tout à fait. Voilà. Alors, bon, après, il faut, si on essaie de gratter, on va trouver plein de choses qui viennent excellemment de la France, hein, par rapport à ça. Mais de ce côté-là, on va, à travers... on est à l'heure du salon d'agriculture, c'est pour ça qu'on critique beaucoup les agriculteurs, mais ils vont tous au salon d'agriculture, en ce moment, les Parisiens à Paris. Donc là, c'est un salon spécial sur l'élevage. Alors, il y en a deux, un sur l'élevage laitier qui est à Rennes et l'autre à Clermont-Ferrand au niveau de l'élevage allaitant.
Alors Clermont-Ferrand a une spécificité en effet parce qu'on se retrouve quand même sur un territoire qui est ancré entre la Limousine et les autres races, on va dire,
Bazadaise chez nous. Là.
Voilà, pour nous la Bazadaise évidemment, mais qui est présente aussi. Voilà, et on voit bien que la Bazadaise, d'ailleurs on peut faire référence à ça Patrick si vous le permettez, qu'on a un éleveur, un voisin là, qui a été d'ailleurs, les deux frères et sœurs ont été apprentis sur le centre de formation, sont aujourd'hui installés dans une ferme très proche donc du local de Rayon Entre-deux-Mers.
Ferme auberge en plus.
C'est ça, une ferme auberge et ils sont aujourd'hui avec leurs taureaux, fiers. Enfin, je vous laisse imaginer la fierté pour Benjamin en particulier de monter avec son bébé comme il l'appelle, sur Paris pour le faire défiler et montrer qu'ils sont fiers éventuellement de ce qu'ils font, quoi.
Parce que là c'est il faut y être né dedans, quoi. Quand on est dans l'élevage, c'est des gars qui sont passionnés, eux ils les bichonnent leurs bêtes pour quand ça passe au salon, c'est au top, là.
Ils sont au top, ils sont brossés, ils sont au poids aussi, parce que c'est des vrais athlètes. Ce sont des athlètes qu'ils préparent comme pour un vrai concours.
Absolument.
Donc, ils les emmènent vraiment au poids exigé, on va dire, pour qu'éventuellement, dans le défilé, aucun défaut n'apparaisse. Mais en même temps, informellement, ils font aussi un petit peu de commerce, il faut le dire. C'est-à-dire que s'ils vendent de la génétique, ils peuvent tout à fait, après, éventuellement, se faire acheter des vaches qui amèneront de la chouette génétique sur un autre troupeau.
C'est exactement comme quand on a, on est primé au centre d'agriculture, chaque fois qu'on a une médaille au centre d'agriculture, avant-hier c'était Thomas de Marmande qui a réussi à avoir sa marque, donc là aussi c'est quelque chose qui après va être connu, reconnu, et donc ça va être des plus-values derrière. Mais il n'y a pas que la partie salon au niveau de l'élevage, il y a aussi des Olympiades.
Les Olympiades des jeunes bergers, il est clair que cette année on a eu un jeune là qui a fini champion de Gironde, donc un jeune éleveur. Voilà, un jeune aujourd'hui apprenti en BPREA, ils sont encore rares malheureusement à être apprenti en élevage en particulier, fils d'agriculteur, donc sur un élevage laitier qui plus est, Patrick, ça, il y en a encore, et c'est tout à fait remarquable. Et ce jeune-là s'est présenté aux Olympiades des jeunes bergers, donc championnat de Gironde, et où il a gagné. Bon, après, on est parti au championnat régional. Là, c'est plus compliqué avec les Basques, je vous laisse imaginer. Oui. Voilà, mais bon, on a, voilà, il a pu se mesurer à ça. Mais j'ai confiance, il est en première année. il sera en deuxième année l'année prochaine, donc on le prépare encore mieux.
Mais assez régulièrement, il y a quand même, des jeunes qui gagnent au moins le concours départemental.
Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour la filière ovine, c'est quelque chose d'important. C'est là aussi, on propose aux jeunes de voir comment fonctionne une filière, parce qu'une filière peut être aussi une source de diversification aujourd'hui. Donc, quand même un viticulteur, quand on les amène sur les OVMP à des jeunes bergers, il dit « qu'est-ce que je fais là ?» Je dis « mais pourquoi pas demain, tu peux faire de l'éco-pâturage aussi et avoir tes quelques brebis et donc avoir quelques gestes techniques rattachés à ça. »
Et avec le groupement des éleveurs girondins, on a l'agneau de Pauillac, on a quand même, il y a des labels. Quoi.
Et le groupement des éleveurs qui veut installer du monde, il manque d'agneaux de Pauillac, clairement, donc oui, là c'est une course effrénée, mais encore une fois, c'est vrai que c'est des moyens d'investissement assez lourds à la base, le cahier des charges étant quand même assez particulier. Donc c'est un enchaînement de choses.
Autre chose, puisqu'on est toujours sur les salons, il y a aussi le salon d'agriculture à Bordeaux.
Et le salon d'agriculture et le parcours à l'enfant, le salon d'agriculture à Bordeaux, en effet. Et là, on propose aux jeunes, en fait, d'accompagner. Alors là, les ateliers sont prêts, en réalité. Donc là, l'intention pédagogique, elle est simple. C'est une première immersion de nos jeunes dans un groupe classe. Ils doivent accompagner ces classes sur des ateliers déjà existants. Là aussi, ils finissent la journée bien fatigués. Ils comprennent ce que c'est que de gérer un groupe classe à un moment donné. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est entre deux ateliers, quand justement les enfants posent des questions à ces jeunes, c'est « qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Et on voit qu'il y a quand même des manques dans la communication et dans la valorisation de ce qu'ils sont, parce que autant ils en sont fiers. Et merci Patrick d'avoir diffusé ce petit moment audio là qui témoigne quand même de leur passion. Et c'est au travers donc justement du parcours à l'enfant et de projets comme ça qu'on arrivera à communiquer et à refaire venir du monde dans le monde agricole.
Oui, c'est ça. Alors après, un autre élément, c'est que tous les ans, il y a le forum d'installation.
Et le forum installation, où nos adultes, comme quasiment chaque année d'ailleurs, gagnent au questionnaire, faut le savoir.
C'est quoi le forum installation ?
Le forum installation.
Sachant que Bérénice est venue il n'y a pas longtemps.
D'accord, la présidente des jeunes agriculteurs, très très engagée, très investie. Ouais. On prépare nos jeunes sur un thème spécifique en lien avec l'installation. Voilà, donc et on a l'intervenant qui vient en amont sur le centre de formation et les jeunes doivent constituer une scénette, donc un petit sketch autour de ce thème-là. Voilà, donc se mettre en situation avec entre eux et donc imaginer des choses. Un bon moyen de faire monter les agriculteurs sur scène, c'est pas simple. Et on arrive à ça. Et au travers des différentes écoles qui défilent le matin pour présenter leur sketch en particulier, il faut bien écouter parce qu'il y a des réponses à des questions qui sont posées sur un papier. Il se trouve que cette année, donc, nos adultes ont gagné au questionnaire. Voilà, et donc, on gagnait un petit séjour d'une journée, un loisir, tout ça financé par le conseil départemental.
Oui, parce que là, il y a plusieurs lots. Puisque ce sont les différents intervenants dans le cadre du parcours d'installation et chacun apporte plus ou moins des lots. La chambre de culture, c'est une journée avec le réseau Bienvenue la ferme. Le conseil départemental, c'est une journée
à Ostens.
Sur des aires sont gérées par le conseil départemental. Enfin, bon, il y a plusieurs types de lots et donc chaque année, l'enjeu est grand. Hein. Ça peut être aussi voir un match de foot. Le Crédit Agricole des Girondins, enfin bon, donc ça donne aussi un peu de piment pour que les jeunes participent par rapport à ce forum.
Mais la meilleure des récompenses reste le fait qu'on arrive à faire monter les agriculteurs sur scène.
Oui.
Voilà, pour réaliser un sketch. C'est toute une préparation et on voit qu'il y a quand même un manque de confiance. Donc il y a quand même des choses encore à travailler avec eux et on se rend compte, et encore une fois, merci d'avoir rediffuser ce petit passage-là, mais il traduit quand même clairement une...
Mais c'est vrai qu'il y a la volonté de dire ce qu'on a comme passion, mais après, on a du mal à l'exprimer aux autres.
C'est tout à fait ça.
Alors après, ce qui est intéressant, c'est la mini-ferme, parce que la mini-ferme, là, on est vraiment en condition réelle, pendant 2 jours, auprès de classes maternelles et primaires, chacun ayant un stand.
C'était exactement ça. Donc, si je reprends les différentes intentions pédagogiques dans le parcours, c'est on visite une foire. Dans une deuxième temps, on va sur le parcours à l'enfant, on encadre une classe sur des ateliers existants. Et la conclusion, c'est en fait, là, c'est vous qui faites les ateliers et qui allez accueillir justement donc, des enfants pendant 2 jours. L'année dernière, c'était 430 enfants sur 2 jours. Et avec des ateliers divers et variés, alors qui tournent par exemple autour de la faune sauvage. où on trouve, voilà, il y a un exposé qui est fait par certains parce qu'ils ont envie de le faire, de parler des animaux qui entourent justement cela. Et on fait un partenariat avec la Fédération de chasse à ce sujet. Et on récupère des animaux empaillés. En fait, ils n'en ont jamais vu, quoi. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On en voit que dans les dessins animés, ils nous disent. Et en fait, on voit des renards en taille réelle, on voit des sangliers en taille réelle, on voit tout ça. Et ensuite, on se permet également pour en fond d'écran, pour animer cet atelier-là, de faire venir des brebis. Avec des agneaux sur la ferme, on fait venir des taureaux aussi, des taureaux de compétition, je vous laisse imaginer. On fait venir des chevaux, on fait venir de la volaille, etc. Et tout ça dans le respect des normes. On contacte bien la DDPP.
Oui, parce que c'est pas évident par rapport à ça.
Et on leur apprend à faire ça dans les normes. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'il faut faire des courriers à la DDPP, faire des déclarations à la Direction départementale de protection des populations, qui valide tout ça. On va chercher un vétérinaire qui vient vérifier si les cartes. En fait, c'est un ensemble de choses qui rend la situation d'évaluation encore plus pratique.
Oui, avec on n'a pas le coronavirus, mais enfin bon, disons que il y a eu la grippe aviaire, il y a eu quand même pas mal d'éléments, la fièvre aphteuse, il y a pas mal d'éléments au niveau élevage qui sont importantes à bien maîtriser. De ce côté-là, c'est vrai que ça nécessite déjà un bon encadrement pour finalement appréhender cet aspect-là. Mais ce qui est intéressant, c'est à la suite de ça, ils sont vidés, non?
Ils sont, disons qu'on le rend festif ce moment-là, on le fait en général sur un jeudi et un vendredi, voilà, et il est clair que le jeudi soir, on fait un peu le point du jeudi parce qu'on se reprépare pour le vendredi et on reste en formation. Et il n'y a rien de mieux qu'un bon repas le jeudi soir, partagé avec tous les apprentis et tous les invités éleveurs qui viennent nous aider à porter tout ça. Et je peux vous dire que le vendredi, en effet, lorsque c'est à 16h, tous les enfants s'en vont, je retrouve des apprentis épuisés et pas avec la vraie envie de partir et sortir.
Alors, une chose importante aussi, on est dans une région de rugby. Et donc, on fait du rugby tag.
C'est exactement ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a trouvé l'idée sur ce territoire du Réolais de proposer une pratique du rugby aménagée. C'est-à-dire que ça serait compliqué. Je vous rappelle qu'ils sont tous en contrat d'apprentissage, donc en contrat de travail. Que ce ne sont pas forcément des grands athlètes, c'est-à-dire pas forcément le temps de faire du sport, attention, je pèse mes mots, donc d'adhérer à la vie associative, vu le temps que demande justement ce travail d'agriculteur. Et on leur a proposé donc une pratique aménagée avec des ceintures. En fait, ils ne se plaquent pas, ils ne se rentrent pas dedans. Et donc, comme ça, on évite la blessure. Et c'est quelques 250 apprentis qui s'affrontent de tout le territoire girondin, avec les Landais qu'on invite également. On remet un trophée. Voilà, qui ressemble à un bouclier, un vrai bouclier. C'est le bouclier du Rotary, club du Réolais en particulier.
C'est pas le bouclier de Brennus, mais...
Non, mais on reste dans l'idée. Et puis, clairement, chaque structure est fière de rajouter sa petite plaque avec l'année. Et il est clair que l'année dernière, c'est la Réole qui l'a gagné. Voilà. La première année, c'était Libourne et Blanquefort l'année dernière. Donc, c'est...
Et là, ça veut dire que c'est des jeunes qui ont de quel âge à quel âge, là, parce qu'on a un peu tous les...
Alors, il y a une compétition pour les CAP. D'accord, et ensuite une compétition.
Alors là, c'est des 16-18 ans à peu près.
Oui, mais on retrouve des CAP aujourd'hui qui ont 20-22 ans.
Ah oui,
ouais, parce que voilà, qui repartent voilà, de plus belle éventuellement dans ces diplômes-là. Et ensuite, on fait un tournoi open, on va dire, avec des BTS, avec des BPREA en particulier, des bacs pro.
C'est
les plus grands, évidemment, et eux font un tournoi. Voilà. Mais l'accent est mis d'abord sur les CAP, c'est-à-dire sur ces jeunes qui sont. Voilà,
Et là, c'est mixte.
Et c'est mixte.
C'est important, ça, de savoir.
C'est important parce que c'est mixte, parce que la jeune fille, quand elle marque, par exemple, dans une équipe, elle rapporte le double de points. Donc, la règle est bien instaurée dès le début et c'est quelque chose d'extrêmement festif. Festif pour les jeunes, mais festif aussi pour les formateurs.
Encadré par la fédération, c'est important, ça aussi.
Mais encadré par la Fédération française de rugby, en effet, avec Laurent Dupuis qui nous aide beaucoup sur ce projet, qui nous a beaucoup aidés et qui va continuer encore à nous aider sur 2020.
Donc, et en plus, vous avez une classe préparatoire à l'apprentissage aussi, non?
Alors, on a un nouveau dispositif qui est arrivé qui s'appelle le prépa apprentissage maintenant. Donc, on a dû faire face à une perte d'une classe qui s'appelait la classe DIMA, qui était un dispositif d'initiation au métier de l'alternance et qui permettait à des jeunes en situation de décrochage dès 15 ans de pouvoir adhérer à tout ça. Et donc là, on a récupéré un dispositif qui est le prépa apprentissage et qui permet à des jeunes d'être en immersion entre 7 et 400 heures, mais dans du multimétier. Donc en fait, on leur permet d'intégrer un petit peu le centre de formation sur des matières, on va va dire spécifique et général, on va dire, et ensuite éventuellement d'aller donc sur des lieux et des structures territoriales, mais pour se faire la main et savoir si c'est vraiment le métier qu'ils veulent faire. Et le rôle pour nous, il est évidemment de faire le lien avec un centre de formation qui leur proposerait la formation en lien.
On est dans l'orientation là.
On est dans l'orientation.
Dans le choix, etc. Parce qu'ils ont quel âge, là ?
À partir de 16 ans, même d'accord ? À partir de 16 ans, évidemment. Et puis, ben, encore une fois, l'apprentissage va jusqu'à 30 ans maintenant. Oui. Et donc, voilà, donc on peut encore signer un contrat d'apprentissage à 29 ans et 11 mois. Donc, tout à fait, on est sur ces profils-là.
Et là, la tendance au niveau des jeunes, c'est l'évolution par rapport aux jeunes qu'on voit au niveau du CFA.
Alors, sur les métiers agricoles, on n'a pas de doute. Sur les métiers agricoles, quand on s'y engage, en général, nous avons des jeunes qui ont une vraie volonté et qui sont déterminés. Forcer quelqu'un et dire à un jeune va dans l'apprentissage, il y a du métier, c'est quand même une sacrée préparation en amont, parce que il est clair que ce métier aujourd'hui reste passionnant, reste en plein air, hein, reste extrêmement au plus proche de la production, forcément donc de la terre, mais il faut que les jeunes reviennent à l'agriculture. Et on revient à Patrick, à ce que vous me demandiez tout à l'heure sur la communication, sur ce que nous sommes et ce que nous faisons. Moi, je peux déplorer une chose cette année. Sur les CAP première année, par exemple, je n'ai pas de viticulteur. Voilà, chose très rare, hein, sur le centre de formation, il y a zéro CAP en vigne et vin. Je veux dire, on a des employeurs qui nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites ? Et nous, on dit, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour redorer l'image de ce métier-là et éventuellement tendre à ce que les jeunes y retournent.
Oui, tout à fait. Eh bien, on a fait à peu près le tour du CFA et puis de la DMR, puisqu'on a au départ, on était... Alors, on va finir avec une pause musicale, c'est la dernière, puisque s'il va passer. Donc, c'est tout simplement Respighi, qui est un morceau qui passera donc au Comédia. Et puis, je vous dis, là-dessus, sur cette musique, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura une émission spéciale sur Garonne Emploi. Garonne Emploi, donc qui a eu lieu la semaine dernière au parc d'exposition en Marmande, où il y avait 40 entreprises, que ce soit l'aéronautique, l'agroalimentaire, etc., groupe d'employeurs, centre de formation, qui étaient présents pour à la fois les jeunes pour rechercher un métier, et puis également les demandeurs d'emploi pour chercher un emploi. Voilà, mais je vous dis sur cette pause musicale, je vous dis à la semaine prochaine.